Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Anthropocène, sixième extinction de masse, nature en crise, ces mots sont devenus presque banals et nous renvoient à l'impact des influences humaines sur le système Terre. On estime que les hommes s'approprient jusqu'à un quart de la production primaire nette de la planète. Appropriation, extension, accumulation, autant de méthodes propres à nos sociétés de croissance. Car la crise de la biodiversité est aussi une crise profonde de notre rapport au monde vivant, ce qui nous amène à questionner nos valeurs et nos représentations, les limites de nos intrusions dans ce monde sauvage ou ce qu'il en reste. Comment protéger la nature sauvage et la soustraire à cette pression? Comment préserver la diversité du monde, ses potentialités, ses spécificités? Doit-on instaurer un autre rapport à la nature et donc inventer un autre humanisme? Voici quelques questions que nous aborderons avec nos deux invités dans cette première partie. Jean-Claude Amezen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, chercheur, directeur du Centre d'études du vivant à l'Institut des humanités, sciences et sociétés, c'est à l'Université Paris Diderot. Et vous êtes aussi ancien président du Comité consultatif national d'éthique, auteur notamment avec Nicolas Truong du livre « Les champs mêlés de la Terre et de l'humanité », un livre paru aux éditions de l'Aube avec le Monde. Et vous êtes bien sûr producteur de l'émission « Sur les épaules de Darwin », émission sur France Inter. Et en liaison avec nous par téléphone, Virginie Maris, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe de l'environnement au CNRS, au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier et auteur du livre « La part sauvage du monde », un livre édité au Seuil dans la collection Anthropocène. Et puis en seconde partie d'émission dans l'œil du monde planète, la journaliste Clémentine Thiberge nous parlera d'une étude américaine sur l'adaptation des oiseaux au réchauffement climatique. Et enfin, l'escale verte nous emmènera en voyage en Amazonie, dans le nord-est brésilien, avec la géographe et éditrice Stéphanie Debussière. Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine de l'environnement sur France Culture, préparé toujours avec soin par Anaïs Morales, avec nos complices Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chausset, Vanessa Chang, toujours réalisé avec brio par Alexandra Malka, avec à la technique aujourd'hui Florent Bujon.
D'ici 2022, nous porterons à 30% la part de nos aires marines et terrestres protégées, dont un tiers d'aires protégées en pleine naturalité. Ce qui est un renforcement en particulier sur le plan maritime considérable, mais surtout une intensification de cette protection dans les aires protégées, avec cet objectif de 30% en pleine naturalité. Nous allons aussi accroître la lutte contre l'artificialisation des sols. J'ai demandé à ce qu'un bilan puisse être fait de manière très précise pour que nous puissions nous fixer des objectifs dans le cadre de ce mandat et à court terme en matière de lutte contre les artificialisations, de réduction de toute artificialisation nouvelle, mais également de réhabilitation des 20 à 25% de sols agricoles extrêmement dégradés par l'utilisation passée de produits phytosanitaires, qui est un enjeu à la fois pour nos territoires et notre agriculture. Enfin, le troisième objectif, c'est la lutte contre le gaspillage.
Voilà, c'était une partie de la déclaration du président Emmanuel Macron le 6 mai 2019 sur la biodiversité, sur la protection de la nature. Virginie Maris, avec l'ère de l'anthropocène, l'homme est partout chez lui, c'est ce que vous nous expliquez dans votre livre. Et on a vraiment ce sentiment avec vous que cette ère signe la fin de la nature. On entendait donc le président Macron parler de protection de la nature, ce qui dit beaucoup de cette société de la destruction.
Oui, donc on pourrait commenter cette allocution du président sous différents angles et comme je vais directement rentrer sur le terme de pleine naturalité qui est évoqué dans cette citation. Donc pleine naturalité qui concernerait 30% des 30% des aires qui devraient être protégées. Et c'est assez drôle et troublant en fait de voir comment on essaye en aval d'interpréter cette notion de pleine naturalité, parce que si par exemple on entend par pleine naturalité l'absence totale d'influence humaine, cet objectif est perdu d'avance. On est dans un régime de changement climatique dont on sait qu'ils sont issus des émissions liées aux activités humaines de gaz à effet de serre, etc. Donc il n'y a pas ni en marin ni en terrestre des espaces qui pourraient être complètement soustrait à toute influence humaine. Donc la pleine naturalité, ici, on ne peut pas la définir comme l'absence totale d'influence humaine. Il faut trouver d'autres guides. Alors je pense que M. Macron n'en avait pas quand il a fait cette annonce-là, honnêtement. Mais c'est quelque chose qui, effectivement, sert un petit peu d'horizon dans la conservation de la nature ou la préservation de la nature, de se dire bah, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est censé faire quand on veut protéger la nature et comment est-ce qu'on dose finalement ce paradoxe qui est de activement agir dans la visée, si vous voulez, de quelque chose qui ne serait pas influencé par les humains ou qui suivrait son propre cours ou qui suivrait sa propre trajectoire, sa propre spontanéité, etc. Donc ça renvoie directement à quelque chose qui est un petit peu paradoxal et qui est au cœur de ce grand objectif finalement de protection de la nature, qui est comment activement protéger quelque chose de nous-mêmes.
Jean-Claude Amezen, est-ce que c'est une pure utopie? C'est vrai qu'on sent que cette ère de l'anthropocène, l'homme est partout chez lui, donc une ère qui signe probablement aussi la fin de la nature, où ça reste une question, mais on pense aux plantations de palmiers à huile, extraction des minerais, exploitation des énergies fossiles, la destruction de l'habitat, la pollution, enfin, et tant d'autres problématiques, cette crise environnementale, en sachant qu'elle n'est pas le fait de tous, mais de certains en particulier, des acteurs dans des pays qui encouragent l'exploitation des énergies fossiles notamment et leur consommation.
Oui, je crois que l'humain n'a jamais été séparé de la nature. La nature elle-même, ce qu'on appelle la nature, est tissée de réseaux, d'interactions. Et donc la grande différence, c'est pas qu'il y ait eu un moment où nous étions séparés de la nature, c'est qu'il y a eu un moment où l'empreinte humaine sur la nature était beaucoup plus faible. Donc nous étions en interaction étroite avec la nature, mais une très grande partie de la nature n'était pas en interaction étroite avec nous. Et ce qui a changé de manière absolument spectaculaire, c'est cette part-là. C'est-à-dire que c'est maintenant l'empreinte humaine sur la nature qui a un impact majeur. Et donc la question, c'est comment faire en sorte, non pas de domestiquer la nature, mais de pouvoir cohabiter avec elle de la manière qui soit la moins néfaste pour le développement et l'évolution du vivant, et la moins néfaste pour nous. Parce que, quand je dis nous, c'est comme toujours en cas d'altération de l'environnement, c'est toujours les personnes les plus pauvres, les plus faibles, les plus démunies qui souffrent le plus. Et donc, comment faire en sorte que nos relations avec la nature ne soient pas des relations qui se passent au détriment d'une part importante de l'humanité ?
Virginie Maris, cette crise environnementale, donc finalement, il y a aussi des propositions qui apparaissent pour la renommer correctement cette ère capitalocène. On parle d'éconocène, de technocène, d'occidentalocène. Ça dit aussi beaucoup justement sur les responsables et les responsabilités.
Oui, c'est très important d'emblée finalement de mettre une sorte d'astérix ou de bémol à ce terme d'anthropocène qui a tendance à globaliser le problème, parce qu'on est face à un problème, et à faire porter finalement la responsabilité sur l'espèce tout entière. Effectivement, comme Jean-Claude le rappelait, justement, les interactions entre les humains et la nature datent de la naissance de l'humanité, et même quand on évoque, par exemple, ce qui peut tenir lieu de fantasmes de nature sauvage. Vous avez évoqué à l'instant l'huile de palme qui remplace des forêts qu'on croit primaires, par exemple en Asie du Sud-Est, ou le soja transgénique qui remplace l'Amazonie. En fait, aujourd'hui, les travaux nous montrent que même ces forêts très denses et très anciennes sont des forêts longuement habitées, transformées, avec lesquelles les populations forestières locales ont eu de très nombreuses interactions. Mais ce ne sont pas des interactions qui ont cette force dommageable qui est inaugurée, en gros, disons-le rapidement, par l'ère industrielle, qui se traduit à la fois par une expansion du pouvoir technique de transformer la nature, mais aussi par un renforcement dans la société occidentale en particulier, à travers le capitalisme, l'industrialisme, par un renforcement d'une conception de la nature comme une ressource, et une ressource à maximiser, à exploiter de façon optimale. Et donc c'est pour ça, effectivement, qu'il y a plein d'auteurs qui proposent de se débarrasser un petit peu de ce terme très neutre et très englobant d'anthropocène, pour viser les processus à la fois politiques, sociaux, économiques qui sont vraiment responsables de la crise qu'on dénomme aujourd'hui la crise environnementale, la sixième extinction de masse, etc. et qui sont beaucoup plus récents dans l'histoire de l'humanité et qui sont bien davantage associés à l'expansion d'abord coloniale et puis ensuite globale d'une certaine société occidentale.
Et oui, parce que comme vous le disiez, l'homme en colonisant des territoires a toujours créé des phénomènes de disparition d'espèces vivantes. Hein. Les grands mammifères, par exemple, comme Homo sapiens en Australie il y a 40 000 ans, comme la disparition des rhinocéros laineux ou des cerfs au bois d'envergure de 3,50 m, c'était en Europe il y a 20 000 ans. Il y a toujours eu ce bouleversement des équilibres écologiques par l'homme. Mais ce que l'on vit depuis le 19e siècle, c'est cela, c'est accéléré.
Toujours oui et non, c'est-à-dire que les phases de colonisation humaine, effectivement, colonisation de l'Australie, colonisation du continent, des continents américains, ont été accompagnées de l'extinction de ce qu'on appelle la mégafaune, hein, d'énormes mammifères et reptiles aussi. Hein. Donc bon, il y a toutes sortes d'explications pour ça. Par contre, c'est finalement des compartiments, ils sont énormes, donc il y a un impact écologique très fort, mais c'est des compartiments assez restreints du vivant qui sont touchés. La flore, les insectes, toute la microfaune à la fois des océans et du sol sont restés très très peu perturbés par les activités humaines. Et là, on a un changement de nature dans l'impact des activités humaines à travers la pollution, les pesticides, le réchauffement climatique, notamment parce que ce sont tous les compartiments du vivant qui se trouvent touchés et touchés de façon extrêmement violente.
Jean-Claude Amezen.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Je voulais juste faire une remarque. Lorsque l'occupation des continents, les occupations multiples ont entraîné des disparitions. Il y a eu les mammouths sur le continent américain, mais il y a eu les bisons au 19e siècle qui ont été détruits. Ça s'est accompagné aussi d'exactions contre les habitants premiers. Donc on voit bien que c'est pas simplement une indifférence ou une agressivité vis-à-vis de certaines composantes de la nature, c'est vis-à-vis des occupants. Et donc les peuples premiers, que ça soit en Australie, les aborigènes, que ça soit aux États-Unis, que ça soit dans tous les continents, ont aussi, lorsque ces continents ont été colonisés, ont été massacrés, chassés de leurs terres. Donc, il y a des aspects qu'on ne peut pas séparer dans l'histoire, je dirais, d'une colonisation des terres qui se fait aux dépens des peuples et aux dépens de certaines parties de la nature. Et puis, il y a quelque chose de différent aujourd'hui, en effet, par l'ampleur et par l'échelle. Mais on en voit encore les échos. Lorsque l'Amazonie brûle et lorsqu'il y a déforestation, sont aussi les peuples premiers d'Amazonie qui sont touchés, qui sont chassés. Et donc, il y a différents niveaux qui se superposent. Et l'un de ces niveaux que vous évoquiez, c'est en effet la multiplication d'activités qui, a priori, n'ont rien à voir avec la nature et avec le monde vivant. La pollution, les
intrants chimiques.
Voilà, et qui ont des effets, non seulement à cause de la masse qui est utilisée, mais aussi à cause du croisement des interactions entre ces effets.
Alors on peut saluer quand même le travail de certains. Hein, comme le disait donc Virginie Maris, il y a une accélération de cette destruction, au-delà de la nature sauvage, même de la nature d'une manière générale. On pense forcément au musicien devenu bioacousticien, hein, Bernie Krause, qui a capté la symphonie de la nature pendant 35 ans, dans plus de 15 000 sites, et qui a pu constituer une vraie banque de données avec des sons qui aujourd'hui au moins permet de garder la mémoire de cette nature qui est en souffrance et donc qui subit la pression des hommes.
Alors c'est pas seulement garder la mémoire, hein, c'est pas seulement être le mémorialiste de ce qui disparaît, c'est aussi voir la nature d'une autre façon. Je crois que multiplier les regards, multiplier les approches que nous avons de la nature, c'est une façon aussi de révéler et de percevoir sa richesse. Et donc ce qu'a fait Bernie Krause, c'est de montrer qu'il y a une infinité de paysages de sons, et pas simplement de paysages visuels, et qu'il y a des niches acoustiques, qu'il y a une écologie des paysages de sons, et que ce que j'avais trouvé très remarquable, c'est que en enregistrant les sons de certains paysages, il détecte des altérations de l'écosystème avant qu'il ne soit visible. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde, on a l'impression que tout est là, il y a des arbres, il y a des oiseaux, mais lorsqu'on écoute, il y a une partie de cette symphonie qui est altérée. Donc il y a une infinité de façons de percevoir la nature et nos relations avec la nature. Et je crois que tout ce qui augmente nos perceptions, on nous rend la nature plus présente. Et donc nous donne à la fois un émerveillement et un souci plus grand de ce que nous appelons la nature.
Virginie Maris, est-ce qu'on doit parler de nature ou bien de biodiversité ? En un mot, on vit aussi une époque où il y a un changement de vocabulaire. Alors, est-ce que c'est un simple changement de vocabulaire ou est-ce que c'est une vraie évolution ?
Alors, c'est une question assez complexe. Il y a une évolution et effectivement, on a le terme biodiversité dans certains textes et aussi dans le langage courant, parfois ne sert qu'à remplacer le terme de nature qu'on utilisait avant, le moderniser, le scientifiser, je ne sais pas. En réalité, si on s'intéresse aux mots et à leur définition, la biodiversité, c'est la diversité du vivant à tous ses niveaux d'organisation, dans sa composition et dans son fonctionnement. Donc quelque part, la biodiversité, on pourrait dire que c'est plus une propriété du monde naturel qu'un équivalent. Au-delà de cette question de définition, la biodiversité s'affranchit complètement de la distinction entre humain et non-humain. On va parler de biodiversité agricole, de biodiversité des paysages anthropisés. On peut même, certains auteurs en font la proposition, considérer la diversité culturelle comme une des modalités de la biodiversité. Donc, un avantage, un atout un petit peu de ce terme de biodiversité, c'est qu'il nous a permis de s'affranchir d'une catégorisation du monde qui reposait en gros sur une vieille dichotomie héritée des modernes qui serait la culture d'un côté, la nature de l'autre, ou alors les humains, les non-humains, etc. Après, personnellement, et c'est un petit peu toute l'ambition du livre que vous avez cité, La part sauvage du monde, personnellement, je pense que le terme de nature, à la fois dans son histoire, à la fois dans ce qu'il évoque et dans la façon dont on est capable de se l'approprier, de le mobiliser, ce terme de nature est un mot dont on se dispense assez mal. Et que plutôt que de le rembarquer avec sa vieille histoire, dichotomique avec sa vieille séparation entre les humains d'un côté et la nature de l'autre qui serait potentiellement séparée par une ligne infranchissable et pas simplement séparée mais aussi hiérarchisée. Je pense qu'on peut néanmoins garder ce terme de nature, essayer de le revisiter, de le réinvestir. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, entre autres, dans ce livre.
Alors, on parle aussi de services écosystémiques. Jean-Claude Amezen, un vocabulaire finalement plus technique, plus scientifique, mais peut-être a-t-il aussi le défaut de créer une distance entre les hommes et la nature. Donc, ce mot nature, il est très important de le conserver.
Oui, je crois, en plus, quand vous parlez de service, c'est pas simplement une distance, une instrumentalisation. Moi, je crois que le mot nature, ce que je disais tout à l'heure, la polysémie, les innombrables façons de percevoir ce que nous appelons la nature, ce mot peut permettre d'en rendre compte. Lorsqu'on dit biodiversité, c'est intéressant. Qui dit diversité dit altérité. Et donc ça nous donne une idée qu'au fond, un ensemble est d'autant plus riche qu'il est composé d'individus différents et de populations différentes. C'est une leçon importante. Mais on a tendance, quand on parle de biodiversité, à se mettre à compter. Toutes les grilles de lecture, quelles que soient leurs valeurs, ont le défaut d'être restrictives. Et donc on dit combien, et à partir de combien la diversité est suffisante. Or, la biodiversité n'est qu'un élément de la richesse du vivant. Et donc, quand on dit biodiversité, on a l'impression que si on a compté un certain nombre d'individus ou un certain nombre d'espèces, on a répondu à une question. Donc c'est intéressant comme concept, à condition que ça soit une des façons que nous avons de considérer le vivant, mais pas réduire ce que nous appelons le vivant ou la nature à simplement l'énumération de sa diversité.
Alors, au fil du temps, il y a eu des alerteurs, des personnes qui se sont inquiétées, assez tôt d'ailleurs, des atteintes du vivant, faites au vivant par l'homme. Darwin d'ailleurs, en son temps, il préfigure non seulement ce qui deviendra l'écologie, mais il était inquiet de notre capacité à détruire la nature. Écoutez ce document d'archives, et puis nous allons nous intéresser à ces acteurs de la protection de la nature et de l'environnement. Écoutez ce document, il s'agit d'un extrait de l'émission Tribune de Paris, diffusée sur les antennes de l'ORTF en 1948.
Demandons-nous quels vont être les travaux de la conférence qui s'ouvre demain et quels vont être surtout ses moyens d'action. Docteur Bernard.
Je voudrais dire que nous espérons une union internationale où les gouvernements seront représentés et qui pourrait coordonner les mesures prises dans de nombreux pays en vue de protéger des objets naturels, intéressants, des sites, des animaux, des plantes menacées de disparition à cause de l'extension des villes, à cause de la mise en culture de nouveaux terrains, de défrichement de forêts, de l'industrialisation exagérée de certaines régions. On protège les oiseaux, on protège les autres animaux, on a des réserves naturelles, comme les districts francs où la chasse est interdite et où les animaux peuvent se redévelopper et reconstituer le cheptel. C'est pour cela que nous avons demandé au gouvernement français, en collaboration avec l'UNESCO, de convoquer cette conférence où pourra être constituée l'Union internationale définitive.
Virginie Marie, c'était donc les propos du professeur Charles Bernard juste avant la création de l'UICN, l'Union internationale pour la protection de la nature, donc en 1948. Propos qui résonnent mais tellement fort aujourd'hui.
Oui, alors c'est intéressant, je ne connaissais pas cet archive sonore. En fait, en 1948, c'est l'UIPN, c'est l'Union internationale de protection de la nature, comme vous l'avez dit, qui quelques années plus tard va être renommée. Alors c'est juste une lettre qui change conservation de la nature, mais en réalité c'est conservation de la nature et des ressources naturelles. On a une organisation internationale qui a pris naissance sur le désir et l'urgence de protéger quelque chose comme un patrimoine naturel mondial, dans une logique, dans une rationalité très esthétique. Hein, je suis aussi issue même du mouvement de Fontainebleau, l'impression qu'il y a quelque chose comme une beauté de la nature qu'il faut protéger pour elle-même et pas pour les services qu'elle nous rend ou pour les ressources qu'elle nous fournit. Et puis assez vite, ce mouvement-là va se transformer pour essayer d'attraper en même temps, simultanément, cette valorisation patrimoniale, non instrumentale de la nature pour elle-même, et puis une approche plus instrumentale, mais qui fait beaucoup de sens aussi et qui préjuge un petit peu de ce que va devenir la notion de service écosystémique, à savoir le fait que ce tissu du vivant sur lequel nos sociétés reposent, c'est un tissu absolument essentiel et que sa dégradation nous coûte directement d'abord en termes de ressources naturelles pensées comme telles, hein, forestières, cynégétiques, agricoles, mais aussi dans la capacité des écosystèmes à recycler les systèmes de virus, à fournir de l'eau potable, etc. Donc c'est intéressant, c'est un très beau document, c'est intéressant qu'il existe oralement, parce qu'effectivement, ça signe la naissance d'une mobilisation internationale sur ces deux enjeux essentiels du XXe siècle et qui deviennent critiques aujourd'hui, à savoir la protection d'une nature pour elle-même, parce que l'être humain n'a pas vocation à tout s'accaparer, à tout s'approprier, à tout transformer, mais aussi la protection d'une nature dont nous dépendons pour notre développement, notre bien-être, notre santé, nos ressources, etc.
En sachant que là aussi, sur ce terrain, Virginie Maris, il y a une évolution du vocabulaire. En 1948, on cherchait à protéger la nature. Dans les années 80, on parle de biologie de la conservation et de conservation de la biodiversité. Ça, c'est à partir de 92 d'ailleurs. Hein, le sommet de la Terre à Rio marque aussi une étape. Et puis aujourd'hui, on en est à la restauration des écosystèmes.
Oui, la restauration, on parle aussi beaucoup de gestion. Hein. C'est un vocabulaire qui est rentré, qui s'est banalisé dans le monde de la conservation, gestion des milieux naturels, gestion de la nature, gestion des ressources. Et puis la restauration, parce qu'effectivement, étant donné l'intensité des dégradations passées et en cours, à la fois des écosystèmes, mais aussi de disparition des populations, extinction des espèces, on ne peut plus, entre guillemets, simplement protéger l'existant. Il faut aussi remettre des dynamiques en route, remettre des écosystèmes sur des trajectoires évolutives satisfaisantes. Et là, ça appelle plutôt une approche de restauration ou de réparation.
Jean-Claude Amezen.
Il y a même eu l'utilisation, je crois, dans une loi du terme de reconquête de la biodiversité. Parce que, encore une fois, reconquête, c'est encore une fois une instrumentalisation, hein, comme si on allait conquérir. la biodiversité, alors que ce qu'on veut, c'est au contraire lui laisser la possibilité d'émerger et de s'amplifier. Donc je crois que nos rapports, même implicites, avec la nature et le vivant, c'est quelque chose qui mérite d'être interrogé. Il y a peut-être aussi dans tous ces regards la notion de respect. Et je crois que nos modes d'élevage, nos modes de culture en monoculture, etc., montrent une espèce d'absence de respect pour nos relations avec ce qu'il y a de plus domestiqué dans le vivant. Et je pense que s'il n'y a pas un respect vis-à-vis du vivant lorsqu'il nous est le plus proche, c'est le vivant domestiqué, c'est difficile d'imaginer, sauf à croire que c'est ailleurs et très loin, qu'on va avoir une forme de respect pour la nature. Et donc, il y a cette dimension à côté des services rendus, à côté de la conservation, à côté de la restauration ou de la réparation. Je pense qu'il y a une forme de respect. Si on n'a pas ce respect, qui est à la fois un émerveillement, qui est à la fois une interrogation, vis-à-vis de la nature qui nous est la plus proche, nos paysages, nos animaux domestiques, notre agriculture, c'est difficile d'imaginer que d'autres l'auront loin de là, parce que les territoires dans lesquels la biodiversité est la plus grande, dans lesquels le vivant peut être le plus florissant, sont des territoires qui sont très loin de nous, sont des territoires tropicaux. Et donc, on peut pas non plus demander à des populations qui sont lointaines de s'occuper, de laisser la nature suivre son cours et ne rien faire près de chez nous. Donc je pense que tout ça est lié. La façon, je dirais, dont nous nous engageons localement dans une forme de cohabitation harmonieuse avec la nature, préjuge de ce qui peut être fait à l'échelle globale. Mais il y a un risque actuellement, je crois, de demander à ceux qui habitent loin, y compris d'ailleurs loin d'un point de vue géographique, en France, pour les territoires non métropolitains de la France, de faire à une très grande échelle ce que nous ne faisons pas à notre échelle. Donc je crois qu'il faut réfléchir d'abord à ce que nous appelons nature, ce que disait Virginie, et puis aux différentes façons que nous avons de cohabiter, y compris lorsque nous laissons la nature se développer le plus seul possible par rapport à des influences humaines. Mais c'est tout un dégradé, c'est toute une série de gradients entre la nature qui nous est la plus proche et puis la nature que nous pouvons laisser
reprendre ses droits, presque, c'est
voilà,
ça.
Voilà, tout à fait.
En tout cas, certains sont actifs sur ce terrain-là pour faire revivre ces territoires, y compris en France. Je vous propose d'écouter ce reportage qui a été diffusé sur France 3 Bretagne. C'était le 11 juin 2017.
Sur cette première réserve de vie sauvage, pas de pêche, pas de chasse, pas de cueillette, encore moins de feu. La faune et la flore, rien que ça.
On veut des noyaux entièrement préservée. Alors des gens nous disent c'est la nature sous cloche, mais au contraire, on la laisse libre, donc ça veut dire qu'elle évolue. Elle n'est pas du tout, elle est vivante. Le castor pourrait revenir un jour ici, enfin voilà. On laisse tout faire, donc c'est le contraire d'être sous cloche, c'est très 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 vivant.
C'est l'ASPAS, l'Association pour la protection des animaux sauvages, qui est à l'origine de cette réserve inaugurée par le comédien et réalisateur Jacques Perrin. Un parrain investi et convaincu qui a déjà eu l'occasion d'inaugurer deux réserves de ce type dans le département de la Drôme.
Quand on laisse la nature libre, elle dessine des perspectives, des paysages formidables. Donc cette réserve du Trégor, c'est pour le bien commun. C'est pas réservé à quelques-uns. Non, c'est une ouverture. Venez voir comme c'est beau la rivière. Venez voir comme ces arbres qui se penchent comme ça sur l'onde. Qu'est-ce que c'est agréable.
Si cette réserve a pu voir le jour, c'est aussi grâce à une donation. L'ancienne propriétaire des lieux a su joindre le geste à ses convictions propres.
Donc j'ai toujours admiré la nature, j'adore les grandes promenades. Je trouve que l'homme détruit la nature. Et donc mon souhait, c'est qu'elle soit préservée. La nature n'a pas besoin de l'homme, elle se régule toute seule.
Dans les prochaines semaines, des gardes veilleront au bon respect de cet espace de liberté pour que s'y réveille une biodiversité, car la nature aussi a le droit de voir la vie en bleu.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Virginie Maris, une réaction peut-être sur ces tentatives de redonner peut-être des droits, en tout cas un territoire, cette notion de grand partage que l'homme peut aussi établir avec la nature.
Oui, je trouve ça intéressant et intéressant de le relocaliser parce qu'effectivement, peut-être on reviendra plus tard sur ces dimensions internationales, interculturelles, mais aussi nationales quand on évoque par exemple la question ultramarine et les attentes qu'on a sur les territoires ultramarins en termes de protection de la nature. les initiatives comme celle de l'ASPAS, hein, que ce soit celle qui est mentionnée dans cet extrait ou dans la Drôme, le Vercors, nous permettent de réaliser que finalement, de la nature sauvage, de la spontanéité, du retour à la naturalité et du retour spontané sans une ingénierie autre que généralement laisser faire les milieux et les dynamiques des populations déjà sur site, ben c'est quelque chose qui est possible et qui marche entre guillemets. Alors c'est un peu des confettis hein, à l'échelle de notre territoire, mais c'est des confettis que je trouve assez encourageants et qui soulèvent énormément de questions. Et la première question qui vient à l'esprit, c'est faut-il effectivement exclure les humains? Faut-il que les humains ou les activités humaines soient totalement proscrites de ces sites-là? L'idéal serait qu'on développe toutes sortes de formes de cohabitation, d'agriculture, d'habitation qui soient douces et qui permettent à ces processus spontanés des populations naturelles de suivre leur cours. Mais aujourd'hui, et peut-être de façon transitoire, la pression est telle, l'urbanisation est telle, le prélèvement des ressources se fait dans une telle intensité qu'il me semble nécessaire, peut-être de façon transitoire, de préserver des territoires complètement indemnes d'activités, notamment d'activités productives. La question qui demeure, c'est est-ce que c'est une sorte de moyen transitoire pour une finalité qui pourrait être plus intégrative des activités humaines et des dynamiques naturelles, ou est-ce que c'est une fin en soi d'ériger des frontières, de séparer la nature des sociétés humaines? C'est une question que je laisse ouverte.
Jean-Claude Amezen, en plus en sachant qu'il y a des études scientifiques et médicales qui montrent que les bienfaits de la nature sur les enfants, par exemple, ceux qui vivent au contact d'une nature saine ont de meilleures performances scolaires et pour les adultes une meilleure santé.
Oui, une meilleure santé, moins de maladies et moins de dépression. Enfin, il y a une série d'études. C'est pour ça que, je veux dire, mettre la nature à part et vivre dans un monde où la nature serait exclue, c'est quelque chose qui serait...
dommageable même pour l'homme.
Très dommageable. Donc, je crois qu'il faille des aires protégées. C'est une vieille idée, hein. Je veux dire, les parcs naturels, les grands parcs naturels, le parc...
Yellowstone,
le premier au 19e siècle. C'est une vieille idée. Ça ne suffit pas. Mais ce que je voulais dire, c'est nécessaire, c'est indispensable, ne serait-ce d'ailleurs que pour redécouvrir ce qu'est une nature sauvage. Mais on voit bien, et c'est pour ça que ça a été l'échec sur le long terme des parcs naturels et des réserves, c'est que s'il y a une pollution, s'il y a un changement climatique, si les nappes phréatiques disparaissent, si les océans sont acidifiés, on peut faire toutes les réserves qu'on veut. Ce sont des îlots dans un environnement qui lui-même est dégradé. Donc je crois que si on ne change pas profondément notre façon de vivre, non seulement ces aires protégées cesseront d'être protégées, mais en plus notre environnement va être de plus en plus invivable. Et donc je crois qu'il y a deux façons. Il y a le respect et l'émerveillement devant la nature et tout ce qui peut être fait, en effet, pour lui permettre de... Mais vous savez, l'agriculture biologique, c'est la redécouverte des rapports prédateurs-proies entre les insectes dans la protection des cultures et la diversité des cultures. Donc on peut, à toutes les échelles, laisser la nature s'exprimer tout en essayant, quand elle nous est proche, disons, de l'accompagner de la façon qui nous est le plus bénéfique. Et je crois qu'il y a deux façons. Il y a l'état de la nature, et puis il y a l'état des populations humaines les plus exposées. Et donc, s'intéresser à la santé humaine, c'est s'intéresser aux effets de la pollution. L'OMS proposait il y a quelques années que s'intéresser à l'état de santé de la population mondiale, c'était indirectement s'intéresser au climat, s'intéresser à la pollution et donc s'intéresser à l'état du vivant et de la nature. Donc je crois qu'il ne faut pas opposer nature et bien-être humain. Il faut au contraire essayer de faire en sorte que nos comportements soient les plus favorables à la nature et soient les plus favorables au bien-être et à la santé humaine.
Un terrain en pente, au-dessus de la ville, des vieux matelas, des plantes et des bidons d'huile. Je monte là-haut m'asseoir, quand la ville s'allume, je regarde le soir et je fume. Je vois le cours de danse à côté de la piscine, et les dames qui pensent dans leur cuisine. Elles pensent aux actrices dans les halls monumentaux, les brassées d'iris et les beaux manteaux. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. On voit tout de là-haut. De mon belvédère, je regarde la France avec ses lumières, ses souffrances. Je vois au bord de l'heure une usine qu'on vend et des hommes qui pleurent devant. Plus loin, les Anglis et Rouen derrière. Et le fleuve qui glisse dans la mer. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. On attend la nuit, on voit tout de là-haut.
C'était Alain Souchon, Un terrain en pente, et c'est la suite de notre émission De cause à effet sur France Culture. Aujourd'hui, le thème La nature sauvage et les hommes, mariage réussi ou divorce consommé. On en discute avec nos invités Jean-Claude Amezen, médecin, chercheur, directeur du Centre d'études du vivant et ancien président du Comité consultatif national d'éthique, auteur avec Nicolas Truong du livre Les champs mêlés de la terre et de l'humanité, un livre paru aux éditions de l'Aube avec Le Monde. Et je rappelle, Jean-Claude Amezen, que vous êtes aussi notre collègue, producteur de l'émission Sur les épaules de Darwin, diffusée sur France Inter, et puis Virginie Maris, philosophe de l'environnement au CNRS et auteur du livre La part sauvage du monde, un livre édité au Seuil dans la belle collection Anthropocène. Est-ce que la science peut être une solution? Parce qu'on parle de l'utilisation de biotechnologies, de la reproduction par exemple, de résurrection d'espèces. Virginie Maris, est-ce que ce sont des solutions à convoquer selon vous?
Évidemment, pour définir les solutions, il faut savoir quel est le problème. Et en fait, personnellement, je pense que un des problèmes centraux de notre rapport à la nature, c'est ce désir de puissance, de maîtrise, de domination, cette incapacité à laisser les processus naturels suivre leur cours, etc. Alors du coup, plus de maîtrise comme solution à la maîtrise, vous pensez bien que ça ne fait pas vraiment partie de mes dadas en termes de solution. Je pense aussi que la notion même de solution est peut-être finalement elle-même trop inscrite dans cette rationalité instrumentale qu'on a déployée dans tous les champs de notre vie, hein, pas seulement dans la nature, également dans l'éducation, dans la santé, dans la culture, dans tout ce que vous voulez, où on est très très performant pour trouver les bons moyens pour des fins qui sont fixées par ailleurs. Et la question, c'est quelles sont ces fins qui sont fixées par ailleurs. Donc, le solutionnisme, essayer de trouver est-ce que c'est une bonne solution, une mauvaise solution, est-ce qu'il faut CRISPR-Cas9 les ours blancs pour qu'ils puissent s'adapter, devenir noirs et s'adapter à des milieux forestiers quand le Groenland sera recouvert de forêts. Je dis ça, ça semble être une blague, mais en fait, ça fait un peu partie du registre aujourd'hui des discussions qu'on peut avoir sur l'intrusion des biotechnologies dans les méthodes de conservation. Personnellement, non, je suis pas très enthousiaste. Si je peux me permettre juste d'ajouter un bémol à cela, c'est justement qu'il n'y a pas une solution et il n'y en a pas une qui soit absolument mauvaise et l'autre absolument bonne. Notre rapport à la nature et les phénomènes d'érosion de biodiversité sont tellement complexes que je ne crois pas qu'on puisse avoir des réponses tranchées et définitives, par exemple sur la question de la restauration des écosystèmes, du renforcement des populations, des réintroductions d'espèces. C'est assez managérial, hein, c'est de l'ingénierie écologique. Si elle est faite de façon un peu modeste, un peu douce et comme un petit coup de pouce à un moment donné pour laisser repartir un écosystème ou une population sur une trajectoire autonome, je serait pas non plus quelqu'un qui aurait une réponse définitive et tranchée sur chaque type d'intrusion de la biotechnologie, par exemple, ou en tout cas de l'ingénierie écologique dans la conservation.
Jean-Claude Amezen, vous avez le dernier mot.
Je pense que, en effet, je veux dire, une nature complètement artificialisée, etc., c'est une solution un peu étrange. Mais je pense qu'il y a des moyens, et ils sont difficiles. Lorsqu'on veut mettre en place des politiques de santé publique, c'est compliqué. Et donc, je crois que nous pouvons réfléchir à des actions qui sont celles qui nous concernent, pas forcément la protection ou la modification de telle ou telle espèce, de l'ours blanc, mais notre consommation de viande, qui au niveau mondial a doublé en 17 ans, il y a un article qui est sorti dans The Lancet Planetary Science, notre utilisation des pesticides, il y a une publication qui est sortie dans Science il y a un mois, qui indique que dans les lacs du Japon, les néonicotinoïdes qui sont utilisés pour protéger des insectes, les cultures de riz, ont fait disparaître les poissons. Et les auteurs de l'étude, ce qui est assez rare dans une publication scientifique comme Science ou Nature, terminent leur article scientifique en citant « Printemps silencieux » de Rachel Carson, qui a maintenant 57 ans, où elle dit « Notre utilisation des pesticides, etc., va entraîner la disparition des oiseaux, disait-elle, des insectes et des poissons. » Et ils disent « Voilà, ça a commencé. » Donc ça, on peut essayer de faire quelque chose, et on peut essayer de faire quelque chose à grande échelle, parce que ce sont nos comportements. Après, la meilleure façon, je dirais, d'accompagner le vivant, d'accompagner la nature, ça demande beaucoup de connaissances. Et je crois qu'on a tendance, comme dans beaucoup d'autres domaines, à miser beaucoup sur la technique au lieu de miser sur la connaissance et la compréhension.
Et l'intelligence collective, alors
voilà,
c'est ça.
L'intelligence collective et la connaissance rend humble. Hein, c'est-à-dire qu'elle permet, ce que disait Virginie, d'essayer de voir l'éventail des réponses possibles. La technique donne l'illusion qu'il y a une solution simple qui permettra de tout résoudre. Donc bien sûr que les techniques peuvent aider. Je pensais, en vous écoutant, les gnous bleus de la plaine de Serengeti, la plus grande migration actuelle de mammifères herbivores dans le monde, avaient été décimés par la peste bovine, qui est une maladie du bétail. Et le bétail les avait contaminés. Et lorsque, dans les années 60, un vaccin contre la peste bovine a été découvert et que le bétail, à la périphérie de la plaine de Serengeti, a été vacciné, eh bien, les gnous blancs ont cessé de mourir. Et leur population a augmenté de 7 fois. Et donc, on voit qu'on peut, en faisant des choses intelligentes, par la médecine, par la technique, on peut, même indirectement, profondément transformer les choses. Mais c'est pas une solution technique en tant que telle. C'est accompagnement.
C'est la recherche aussi.
C'est la recherche, la compréhension, l'accompagnement. Et je crois qu'il faut beaucoup de connaissances, mais il faut aussi beaucoup d'actions pour essayer de modifier ce que sont nos comportements. Et des fois, les comportements les plus simples, rouler en voiture, manger beaucoup de viande, etc., etc., sont des comportements très difficiles à modifier. Et là, il faut aussi de l'intelligence collective, de la réflexion, une information dès l'école, et essayer de savoir comment nous voulons vivre. Parce que c'est vrai que une partie de ces dégâts et de ces destructions viennent de la somme de comportements individuels qui, lorsqu'ils sont multipliés par des très très grands nombres, eh bien, provoquent des effets majeurs. Ce que je trouve, c'est presque ironique, hein, mais notre façon de détruire la nature aujourd'hui, elle se fait par un procédé qui a été à l'origine de la pensée de Darwin lorsqu'il a conçu l'évolution du vivant, c'est-à-dire de petites actions répétées par un grand nombre d'individus peuvent entraîner des conséquences majeures. Et c'est ce que nous voyons. Un peu de pollution, mais dans beaucoup d'endroits, un peu d'insecticides, un peu... Et ça donne des dégâts une fois que des seuils sont franchis. Donc c'est aussi sur cette notion de seuil, je crois, qu'il faut que nous réfléchissions. Et encore une fois, en ne faisant pas peser aux pays et aux populations les plus pauvres et les plus démunis ce qu'il convient de faire, mais en essayant toujours de marier
d'être dans une justice environnementale.
Voilà, la préservation de la nature avec la justice humaine et la justice sociale.
Merci Jean-Claude Amezen. Je rappelle le titre du livre que vous avez écrit avec Nicolas Truong, Les champs mêlés de la Terre et de l'Humanité, paru aux éditions de l'Aube avec Le Monde. Et puis, on peut citer aussi, bien sûr, les éditions Radio France sur les épaules de Darwin, pour tous les amoureux de l'environnement et de votre émission, bien sûr. Virginie Maris, La part sauvage du monde, un livre édité au Seuil dans la collection Anthropocène. Mais vous restez avec nous, seconde partie de notre émission avec L'œil du monde planète. Et tout de suite, direction la rédaction des pages planètes du journal Le Monde, notre partenaire média dans l'actualité qui touche à l'environnement. Coup de projecteur sur une information choisie par l'un des journalistes du quotidien. Et aujourd'hui, l'œil du monde planète n'est autre que Clémentine Thiberge. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez choisi, Clémentine, de nous parler d'une étude qui montre la capacité d'adaptation des oiseaux au réchauffement climatique.
Oui, tout à fait. Alors, cette étude, elle a été publiée le 4 décembre dans la revue Ecology Letter. C'est une étude qui est assez intéressante, tout d'abord, de par la méthodologie utilisée. Donc, cette étude a été menée par un scientifique du Muséum de Chicago, Dave Willard. Cette personne, en 1978, il est arrivé un matin au travail, comme tous les matins, et devant le bâtiment du muséum, il a trouvé des oiseaux au sol qui étaient morts pendant la nuit parce qu'ils se sont écrasés contre ce building. Il a décidé de les récupérer pour les insérer à la collection du muséum. Mais avant de les intégrer à la collection, il a enregistré plusieurs de leurs caractéristiques. Donc par exemple, il a mesuré leur masse, leur taille, la longueur de leurs pattes, la longueur de leurs ailes, ce genre de mesures, qu'il a ensuite mis dans un registre. Ce travail, qui a commencé un petit peu par hasard un matin, s'est poursuivi pendant 40 ans avec l'aide de scientifiques et de bénévoles du Muséum de Chicago et de l'Université du Michigan. Et cette tenue de notes méticuleuse a porté ses fruits, donc l'année dernière, parce que les scientifiques ont analysé donc, cette énorme masse de données sur 40 ans et ils ont découvert que au cours des 40 dernières années, les oiseaux ont vu leur taille diminuer. Alors, ils ont cherché à savoir pourquoi, et selon eux, cette évolution, elle serait probablement liée au changement climatique.
Alors, la taille diminue et les ailes s'allongent.
Voilà, c'est ça. Alors, tout d'abord, principalement, la taille diminue. Donc, la taille diminue environ donc, de 2,4%, ce qui est quand même assez conséquent. Cette diminution de taille, il l'explique par un principe qui s'appelle la règle de Berman en écologie, qui corrèle la température de l'environnement avec la masse du corps. C'est-à-dire que plus il va faire froid, plus la masse corporelle des animaux va être grande, et plus il va faire chaud, plus les animaux vont être petits. Par contre, ce qui était étonnant dans cette étude, c'est comme vous l'avez dit, ils ont aussi découvert que les ailes des oiseaux se sont allongées. Alors comment expliquer qu'à l'inverse du reste de leur corps, les ailes des oiseaux s'allongent? Les scientifiques l'expliquent de manière assez simple. Ils disent que plus les oiseaux sont petits, plus la migration leur est difficile. Donc pour compenser leur taille, leurs ailes ont grandi afin de rendre leur voyage moins éprouvant.
Alors, on découvre aussi dans votre article, Clémentine Thiberge, que d'autres études pourraient être menées, hein, ailleurs dans le monde et sur d'autres espèces. On laissera nos auditeurs découvrir le contenu de votre article qui raconte cette aventure. Par contre, vous nous emportez aussi dans vos articles sur le terrain d'autres animaux hein, qui ont une autre façon aussi de réagir au réchauffement climatique. Et tout cela en rapport avec le travail de l'UICN, je crois.
Tout à fait. Alors, l'UICN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature, a sorti une actualisation de sa liste rouge. La liste rouge, c'est donc la liste des espèces menacées dans le monde, sur la totalité des espèces animaux, aussi bien les espèces végétales que les espèces animales. Donc, ce rapport tire un peu une sonnette d'alarme. Ils ont rajouté dans leur actualisation cette année 1840 espèces à la liste des espèces menacées. Ils ont pointé 10 espèces dans la nature qui vont mieux depuis cette année, grâce principalement à l'action, entre guillemets, de l'homme, c'est-à-dire des moyens de réintroduction. Mais 10 espèces qui vont mieux comparées aux 1840 espèces ajoutées à la liste d'espèces menacées, c'est pour eux vraiment une sonnette d'alarme et c'est vraiment une conséquence du changement climatique et par exemple la fréquence des événements météorologiques qui augmente et leur intensité qui augmente et qui met en péril beaucoup d'animaux.
En tout cas, de façon très instructive et documentée, toutes les informations sur ces deux histoires qui se recoupent sont à retrouver, Clémentine Thiberge, dans vos articles. Et bien sûr, des articles qui sont à disposition pour nos auditeurs sur notre site d'émission, franceculture.fr et sur le site dumonde.fr. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Siri 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 siri
siri. Et oui, nous Nous prenons la direction du nord-est brésilien dans cette escale verte. L'escale verte qui chaque semaine nous emmène du côté d'une ville, d'un village, d'un lieu pour y découvrir des territoires, des coins de paradis ou des secteurs en danger, des actions, des événements. Bonjour Stéphanie Debussière.
Bonjour.
Vous êtes géographe de formation, éditrice, fondatrice de la maison Akinome et auteure notamment de ces deux livres, Amazonia, signé avec Valérie Aboulker et Emmanuel Gazo, et celui aussi pour les enfants, Voyage en Amazonie, des livres issus d'un voyage, donc retour au Brésil, et cette immersion au sein de la tribu des Indiens Uniquin, celle d'ailleurs d'une restauratrice parisienne.
Voilà, tout à fait. L'histoire a commencé en fait avec Joelma Letao, qui est donc née dans l'état de l'Acre, au Brésil. Alors, je rectifie un tout petit peu, quand vous dites nord-est, le nord-est brésilien est une région très spécifique qui correspond au Sertão et au Pernambouc. Là, on est vraiment ailleurs, on est vraiment près de la frontière péruvienne, au cœur de la forêt. Et donc, le fait d'être déporté encore plus à l'ouest, voilà, donne une identité forte à ce voyage.
Et donc, on entendait à l'instant l'ambiance musicale du festival qui a eu lieu en 2018, et vous y étiez justement.
Tout à fait. C'est un festival qui a lieu chaque année au mois de juillet, qui rassemble en premier lieu les Indiens eux-mêmes, qui font vraiment la fête, et dans un deuxième temps, et c'est la chance que j'ai eue, quelques Occidentaux, et par le biais de Joelma, qui est donc cette cuisinière hors pair avec qui j'avais fait un premier ouvrage sur la cuisine des super aliments, on a pu découvrir avec ma petite expédition personnelle, puisque donc je suis partie avec un photographe et une dessinatrice.
Donc Igarapé do Cocho, c'est ça ? Des Indiens qui ont organisé leur vie en harmonie avec le vivant. Et c'est ce que vous avez vécu en immersion. Racontez-nous un petit peu, justement, cette immersion, j'allais dire cette intrusion, pas forcément, mais cette harmonie.
Oui, vous avez raison de parler d'harmonie. Ce qui m'a frappée en arrivant dans ce village, alors déjà assez difficile d'accès, puisqu'on doit prendre plusieurs moyens de transport et de longues heures pour y parvenir. Mais ce qui m'a frappée, c'est leur gentillesse, évidemment, ce qui était un souvenir très marquant pour moi qui avait passé du temps à l'âge de 20 ans. Les Brésiliens sont des gens extrêmement accueillants. Ils ont une différence flagrante de vie et pourtant on a presque l'impression qu'ils ont cette force égale de vie finalement qui nous les rend très très proches. Et donc cette joie de vivre est évidemment quelque chose de très fort, d'autant plus que le festival qui avait lieu pendant cette semaine, qui a lieu pendant à peu près une partie de mon séjour là-bas, est très gai et très dansé, très musical. Alors, un festival qui s'appelle Vivencia, donc c'est une rencontre spirituelle et culturelle. Donc c'est vraiment une idée de rassembler des gens autour d'une spiritualité forte, la spiritualité qui est liée à la forêt, et en même temps, la culture, évidemment, parce qu'ils veulent faire vivre toutes ces traditions, et ils veulent nous montrer à quoi ressemblent ces traditions.
C'est un secteur donc préservé ou bien en passe de subir le développement et les orientations gouvernementales, parce qu'il y a quand même aussi ce développement d'infrastructures, les prospections minières, les élevages extensifs, alors que eux sont situés encore dans une partie de la forêt primaire amazonienne.
Alors, la forêt primaire, elle n'est pas dans le village, elle n'est pas même tout près. Il faut quand même marcher un petit moment avant d'arriver dans ce qu'on appelle la forêt primaire. Là, on se situe finalement en bordure de la rivière Mourou. Et pour tout vous dire, jusqu'à arriver à ce village, on n'a pas vu d'arbres. Et quand on était arrivé même sur le lieu en sortant du bateau, la déforestation est en face, c'est-à-dire elle est aux portes du village. C'est-à-dire qu'on voit de l'autre côté de cette petite rivière, qui n'est même pas un affluent de l'Amazone, hein, c'est encore un affluent d'un affluent, on a devant nous un bétail, c'est pour ça qu'on a tenu vraiment à le montrer dans le livre, à la fois en photo et en dessin. On voit un troupeau épars de bétail, de vaches blanches, et on se dit que c'est pas normal du tout.
Alors finalement, on se rend compte aussi, vous nous donnez beaucoup de clés de compréhension de leur vie et aussi de leur rapport à la nature. Un peuple qui a mis en place un règlement pour la protection de la forêt, qui conserve ses connaissances ancestrales liées aux plantes, à la nature, au cycle de la vie, des saisons, au respect de la terre. Aujourd'hui, donc, avec ce que vous portez de votre expérience et de retour, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la source d'inspiration peut-être qu'ils peuvent être eux-mêmes pour nous, Occidentaux?
quand on les regarde vivre au quotidien, alors en essayant d'extraire le fait qu'on était dans un moment festif, j'ai lu en fait et j'ai entendu, j'ai essayé d'interviewer les Brésiliens qui étaient là, les guides ou les tout simplement les hommes et les femmes qui étaient présents, on s'aperçoit qu'ils sont alors très en phase et très en fusion avec la forêt. Et la seule chose qu'on pourrait faire, nous, c'est être beaucoup plus proche de la nature, dans le sens où si on entendait, si on se mettait, je dirais, dans une attitude d'écoute, de gratitude, de bienveillance, d'amour, d'émerveillement, déjà, on a fait un grand pas. Moi, c'est ce que je retiens de tout ce voyage. C'est à la fois beaucoup de choses, parce que humainement, on a eu des vraies conversations. Et puis, sans entrer dans le détail, il y a toute cette partie de spiritualité et de médecine, avec des guillemets, qui fait qu'on voit bien l'importance que représente voilà, toute cette forêt pour ce peuple.
Vous nous parlez aussi du problème de déforestation, mais vous nous donnez la solution de l'agroforesterie, chère au botaniste Francis Allais. Hein.
Absolument, ça c'est une chose heureusement qui a l'air de bien fonctionner dans l'état de l'Acre. L'agroforesterie qui est une façon d'exploiter la forêt au mieux pour optimiser vraiment l'économie de la forêt. Effectivement, vous citez Allais, moi j'ai eu une grande découverte en lisant le livre de Francis Kahn, qui est un botaniste tropicaliste également, qui a produit un travail remarquable sur les palmiers d'Amazonie et qui m'a permis de comprendre et d'apprendre beaucoup de choses.
Une réaction peut-être, Jean-Claude Amezen, je vois que vous prenez des notes et vous avez envie de réagir.
Non, mais en vous écoutant, je me redisais qu'en fait, on parle de nos relations avec la nature. Nos relations avec la nature dépendent de notre culture. Et donc, si nous voulons changer notre rapport à la nature, c'est un changement culturel qu'il faut faire. Donc, il n'y a pas de séparation entre la nature et les cultures humaines. C'est la façon dont nos cultures perçoivent et interagissent avec la nature dont nos relations dépendent. Et donc je crois que c'est ce changement culturel humain, ce que vous évoquez, sur lequel il faut travailler.
Peut-être que justement ça suscite des réactions de votre côté.
Allez-y. De changement culturel ou de changement d'attitude, évidemment. Le souci, c'est plutôt qu'on a affaire à des urbains et que moi-même, je suis née à Paris de génération en génération depuis des lustres. Donc la difficulté, effectivement, c'est de changer de paradigme et surtout, en ce qui me concerne, c'est de voyager. Mes deux convictions qui sont, d'une part, s'ouvrir aux autres avec le voyage et en même temps faire attention à la nature, donc à la terre, donc avoir une green attitude, ça c'est les deux convictions pour moi aujourd'hui, elles sont réunies dans ce que je fais quotidiennement.
Merci Stéphanie de Bussière, à conseiller bien sûr à nos auditeurs vos deux livres illustrés de dessins et de photos magnifiques, Amazonia, signé avec Valérie Aboulker et Emmanuel Gazo, et puis celui pour les enfants, Voyage en Amazonie, tout ça publié chez Akinome. Et comme toujours, vous pouvez retrouver bien sûr les informations, la bibliographie, les liens sur le site de l'émission franceculture.fr à la rubrique de cause à effet. Téléchargement, réécoute à votre disposition et sans modération. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, hashtag DCAEffet ou sur notre page Facebook. Et dans un instant, suite de vos programmes sur France Culture, vous allez retrouver Louise Touré et Être et Savoir.